Moi, je prends le bon du pays de la paix orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Normandie. En fait, on engage, je pense qu'en combinant les deux, la liste de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen dans Parole aux auditeurs. Le gouvernement congolais a décidé de poursuivre l'opération des traques de bandits urbains appelés Kuluna Kinshasa. Lambert Mende, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, a affirmé que des nouvelles mesures ont été prises pour accompagner la reprise de cette opération qui avait été décriée par des organisations de défense des droits de l'homme. Selon le ministre, les chambres spéciales des tribunaux pour enfants seront créées et l'inspection générale de la police nationale va systématiquement évaluer chaque opération de grande envergure. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour nous joindre en direct. Ces magazines mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Julie Fesabongonda assure la gestion du standard. Jérémie Lungembo est à la coordination et réalisation. Pierrot et la Méja, le plaisir de vous présenter cette émission. Sur la supervision de Martin Sebougeon, vos fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons qu'en 2014, la police a été accusée par les organisations de défense des droits de l'homme d'avoir commis des dérapages en ce qui concerne la traque des bandits urbains appelés communément Kinshasa à Kuluna. Et le gouvernement a pris la décision de relancer cette opération. Cette fois-ci, le ministre de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a affirmé que des mesures ont été prises pour accompagner la reprise de cette opération. C'est notamment la création et l'installation des chambres spéciales des tribunaux pour enfants et puis l'évaluation de chaque opération des grandes envergure par l'inspection générale de la police. Comment commentez-vous cette actualité? C'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé bien sûr à cet échange le général Célestin Kadiama, commissaire provincial de la police ici à Kinshasa, avec qui nous allons échanger pour voir comment rendre plus efficace le travail de la police dans la lutte contre ce banditisme urbain. Mais nous avons déjà quelques auditeurs qui nous ont rejoint dans cet échange, comme Maître Sonville qui est à Lubumbashi et Franck qui est ici à Kinshasa. Je crois notre invité est déjà avec nous en ligne. D'un moment à l'autre, on va avoir le général Célestin Kanyama, commissaire provincial de la police ici à Kinshasa. En attendant, Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Alors, comment on peut arriver d'une manière plus efficace à opérer ces genres d'opérations, disons, à mener ces genres d'opérations de lutte contre le banditisme urbain, comme ça a été lancé à Kinshasa et que le gouvernement vient bien reprendre pour la sécurisation des quartiers?
Et bonjour M. Pierrot, bonjour aussi à l'invité le général Kanyama, bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Kapi. Par rapport à cette opération, l'idée est géniale. C'est génial pour que la population soit sécurisée. C'est ça même la mission de voler à une police régalienne. C'est ça la mission. Mais on peut toujours s'inspirer des cas qui sont passés au niveau de Kinshasa par rapport à d'autres provinces, là où on veut procéder à cette opération-là, du genre de l'opération du conflit. Est-ce que vous savez, monsieur Pierrot, si c'est pour sécuriser la population, là nous sommes d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un guide sur cette opération. Oui, alors?
Allez-y, on vous écoute.
Allô?
Oui, allez-y, vous êtes sur les antennes, oui.
Sur cette opération. C'est-à-dire qu'au niveau de Kinshasa, il y a des ONG qui sont montées au créneau, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une question de règlement de compte. Il s'agissait d'une question de matraquage, il s'agissait d'une question de poursuite vers les gens qui ne partageaient pas les mêmes avis avec le pouvoir. Mais si c'est pour sécuriser, là, il n'y a pas de problème. C'est pour endiguer ce phénomène-là, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes en train de dire avec moi, monsieur Pierrot, il n'y a pas 4 ou 3 jours à Colombie, les gens armés sont entrés dans une maison, ils les ont tués au moment où le poste de police était approximatif. Or, j'avais eu l'occasion de suivre le général Kanyama. Il nous a parlé de la réforme de la police. Il nous a parlé de la police de proximité. Mais nous estimons que tous ceux-là, ces bandits armés qui sont arrêtés, ce sont des policiers. Nous ne disons pas que tous les policiers sont des bandits armés. D'abord, l'opération de Côte d'Ivoire aussi et faire ce procédé au niveau même de la police pour détecter les brebis galeuses qui sont là pour salir le nom de la police. Or, au-delà de ça, nous assistons aujourd'hui à une justice populaire. Pourquoi nous assistons aujourd'hui à une justice populaire? C'est puisque lorsqu'on arrête un voleur, deux ou quatre jours, on retrouve ce voleur à main armée sur la rue. Ce qui n'enchante pas la population. Par rapport aussi à cette opération du COVID, ici à Lubumbashi, il n'y a pas deux semaines, trois semaines, on a vécu de bouclages au niveau de pendant la nuit, au niveau de dans toute la ville de Lubumbashi. Mais derrière cette opération-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rassemblement des biens des citoyens, expropriation. On est en train d'exporter. Le bien des citoyens, l'argent des citoyens, mais au moment où, lorsqu'on se rencontre, on est organisé, on se rencontre avec un policier, la nuit, on se sent directement en sécurité. La police est appelée à prendre cette personne qui se retrouve pendant la nuit en insécurité et l'acheminer jusqu'à son domicile.
Et ça, c'est important. Ce que vous avez évoqué, Maître Sonville, vous évoquez le fait que cette opération doit tenir compte de besoins réels des sécurisations et non le règlement des comptes. Vous souhaitez que cette opération puisse tenir compte des besoins réels et non le règlement des comptes. Mais vous avez aussi souhaité qu'on puisse avoir des explications sur la réforme de la police des proximités pour éviter des cas de justice populaire qui font qu'il y a une crise de confiance qui s'installe et qu'il y ait des malfaiteurs qui sont arrêtés, qui sont libérés le lendemain. La population ne puisse pas avoir confiance, n'est-ce pas, dans la police et la justice. C'est ce que vous avez souhaité, mais que l'opération ne se transforme pas en traque ou en rassonnement, en extorsion des biens de la population, de ceux qui croisent la police la nuit. Mais pour vous, vous saluez l'opération, qu'elle se déroule d'une manière professionnelle. Merci beaucoup, Maître Sonville. Franck, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Et notre ami Sonville disait tout à l'heure, il faudrait que l'opération se déroule d'une manière professionnelle parce qu'il faut la saluer. Et alors, pour vous, avec l'expérience de Kinshasa, de la ville que vous connaissez, alors, de quelle manière on peut aujourd'hui rendre une telle opération plus efficace et professionnelle pour éviter qu'il y ait encore, peut-être comme on a vu la fois passée, des ONG qui sont montées au créneau pour pouvoir accuser la police de dérapage, Franck. Bonjour.
Oui, merci, Thierry. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde de votre équipe et aussi surtout à l'invité, le général Célestin Kanyama qui sera là d'ici là. Je crois que par rapport à ce que notre compatriote venait de dire, nous allons continuer sur la même ligne. Parmi les charges régaliennes de chaque État qui se fait responsable, M. Thierry, il y a aussi avant tout la sécurité des citoyens, la sécurité de leurs biens et aussi leur libre circulation. Pour cela, chaque État qui se fait responsable et respectable s'appuie à des services de maintien de l'ordre, comme la police, l'armée et les autres de ce genre. Et par rapport à la disposition qui est en train d'être prise, elle doit être encouragée parce que dans chaque État, dans chaque pays, dans chaque cité, c'est tout le monde qui veut vivre en paix, c'est tout le monde qui aspire à vivre en paix, quand bien même cela n'est pas toujours comme ça que par rapport parfois à la mentalité de certains indisciplinés. Et selon moi, par rapport à ce que le premier intervenant venait de dire, si toutes les autres dispositions judiciaires sont prises en compte, on ne peut qu'encourager une telle disposition car tout le monde peut se retrouver. Par ailleurs, nous devons le dire aussi en toute sincérité, l'on éviterait de tomber dans des excès, parfois dans des règlements de comptes et surtout aux approches des échéances électorales, tout excès risque d'ouvrir des brèches pour soupçonner ou salir telle ou telle autre personnalité politique ou juridique ou ainsi de suite. Et depuis que je suis à Kinshasa, il m'arrive, vous le savez, je me promène librement, j'observe, c'est vrai que le phénomène est en train de reprendre ses allures anciennes, parfois dans certains coins de la capitale, si vous êtes là, On vous dit clairement non, ici il faut pas rester pendant longtemps dans l'obscurité parce que tout peut vous arriver.
Mmh.
Et il y a ça d'abord, on doit prendre des dispositions vraiment adéquates pour bien prier, pour bien épingler ses vœux Kuluna. Mais je crois que nous devons aussi ajouter certaines formes de Kuluna, Monsieur Piro, avec les taxis moto. Il y a aussi parfois des bandes de vols organisées à bord de ces taxis moto. Personnellement, en 2013 et 2014, on m'a mené à l'aéroport à une distance de 500 mètres, ou moins de 300 mètres. On a vu comment un taximen avec un passager derrière s'est arrangé pour chipper les billets de pays de citoyens qui étaient en train de passer. Et je crois que le Kuluna dont il est question ici, c'est pas seulement le Kuluna, le phénomène d'aller graisser quelqu'un en cours de route avec des machettes ou des armes blanches. Mais on doit aussi arriver à épingler ces Kuluna qui se font passer pour des taximen, parfois des taximotos. Comme solution, on doit d'abord, par exemple, répertorier toutes les plaques de ces motos-là. Parce qu'il y en a qui opèrent comme ça, ils n'ont même pas de plaques, même des voitures sans plaques. La nuit, ils embarquent les gens et vous arrivez quelque part, vous êtes braqué. Et si toutes les dispositions sont prises, cela ne ferait qu'encourager tout le monde. Évidemment, dans certains quartiers, les gens profitent aussi pour régler des comptes à tel ou tel autre. Si jamais il y avait des disputes, alors c'est peut-être mieux d'avoir des vrais renseignements, la bonne information à la bonne source avant de condamner. Et cette fois-ci, comme on a dit qu'on procédera d'abord à des enquêtes, à des jugements, là ça peut répondre par rapport aux désidérata de tout le monde.
Bon,
je ne veux pas me verser par rapport aux objections des ONG. Ils savent ce qu'ils disent. Si c'est bien pour, si c'est juste pour le bien de la population, on peut en tenir compte. Mais l'État, par rapport à ses attributions régaliennes, a des directives et des précautions à prendre pour sécuriser la vie de tout le monde et aussi la vie de ces porte-parole de ces ONG là qui parlent et qui plaident pour les différents citoyens.
Merci. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Franck. La question que vous avez soulevée, une particularité, hein, le banditisme qui s'opère avec les taximotos, vous vous rappellerez qu'il y a une année, il a été interdit aux taximotos de travailler au-delà des 19 heures. On a vu dans beaucoup de quartiers, il n'y avait plus de motos qui circulaient. Mais après les événements du mois de janvier 2015, on se rappellera qu'au niveau de Kinshasa, l'hôtel de ville a pris la décision en autorisant les taximotos de pouvoir circuler librement au-delà de 20 heures, comme on avait vu. Alors, on a vu à Kinshasa, ces phénomènes s'est développé des pickpockets, mais aussi des agressions à travers la ville, des gens qui utilisent des motos taxis. Mais vous avez souhaité qu'on puisse d'abord avoir un contrôle, qu'on puisse identifier les motards. Mais quand vous regardez la plupart des motos qui circulent à Kinshasa aujourd'hui, c'est à peine quelques dizaines peut-être qui ont des plaques de matriculation. Ça, c'est déjà un problème. Savoir identifier tous ces motards dans les quartiers, ils sont tellement nombreux. Et comme ça, on saura passer des gens là où ils opèrent, là où ils travaillent. Mais il y a aussi un problème de mobilité des motos à Kinshasa. On peut trouver quelqu'un qui habite Ngaba, qui va, par exemple, faire les taxis motos à Massina. Quelqu'un de Mongafou, le vient travailler au rond-point Ngaba. Celui de rond-point Ngaba travaille sur Victoire et jusqu'à Bandal. Et dans ces conditions, ça arrive aussi d'être très difficile de pouvoir tracer les motards. Mais vous souhaitez que la police puisse faire ses travaux. Mais vous avez beaucoup insisté sur la justice. C'est pourquoi même le porte-parole du gouvernement a annoncé l'installation des chambres spéciales des tribunaux pour enfants pour pouvoir accompagner cette opération. Merci beaucoup, Franck. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central. Bonjour, maître, et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les amis auditeurs.
Et peut-être que le phénomène, comme on l'a vu se développer à Kinshasa, appelé Kuluna, peut-être que les opérations ne sont pas les mêmes qu'à Kananga, mais je crois que dans les grandes villes, le problème des banditismes urbains existe, mais aussi ceux qui vont au-delà, comme des malfaiteurs qui attaquent les gens dans leur domicile la nuit, tout ça, ce sont des problèmes qui se posent. Alors, d'une manière plus efficace, comment on peut arriver à accompagner ces genres d'opérations, maître Adrien?
Oui, merci beaucoup, Piero, de la parole que vous m'accordez. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que même à Kananga, nous sommes en train de vivre ce genre de banditisme, c'est-à-dire ça n'épargne pas une ville. Donc, comme vous l'avez dit, dans toutes les grandes villes de la RDC, c'est ce phénomène-là, Kuluna, Chegué, ça dépend d'une appellation d'un lieu à un autre. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est d'abord une inquiétude pour moi, Pierrot. Pourquoi? Parce que c'est une décision gouvernementale Hein, donc le gouvernement par le biais du porte-parole, de son porte-parole, a pris la décision pour qu'on puisse lutter contre ce genre de banditisme. C'est comme ça que moi, j'ai souhaité et je propose ceci. Comme c'est une décision du gouvernement, pourquoi ne pas décréter cette décision-là sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Parce que nous avons comme expérience malheureuse, bien sûr, lorsque on commence ce mouvement-là à partir de Kinshasa, nos amis-là sont toujours des petits malins, ils quittent Kinshasa, ils viennent soit à Kananga, soit à Kikwite, soit à Lubumbashi, soit à Mujimai, ils se réfugient là-bas, et après l'opération, après le mouvement de Kinshasa, et ces gens-là rentrent vite à Kinshasa. Et lorsque l'opération est lancée à Kananga, et c'est le même scénario, ces gens-là quittent Kananga, ils se réfugient à Chikapa, à Ilebo, et lorsque le mouvement va se calmer à Kananga, ils vont vite regagner encore le milieu. Donc, cette façon-là de faire n'est pas une bonne façon pour lutter efficacement contre ce genre de banditisme. Il faut décréter un mouvement général. Là, c'est de un. De deux, je pense que parler de chambres spécialisées des tribunaux d'enfants, bon, moi, je me dis peut-être l'intention est bonne, mais qui a dit à son excellence que ce sont les enfants, ce sont les mineurs qui sont à la base de tout ça. Parce que ici, peut-être c'est le contraire. Hein, les mineurs sont envoyés en avant-plan, mais ce sont les majeurs qui sont là, qui ravissent, qui plaisent aux yeux et aux yeux de tout le monde. Moi, je pense qu'on pouvait mettre, on pouvait chercher à mettre tout simplement l'action publique en mouvement, en mettant à la disposition des magistrats le moyen colossal pour que ces magistrats-là s'investissent, pour qu'on puisse arrêter ces gens-là. Parce que lorsqu'on parle de chambres spécialisées, de tribunaux pour enfants, on fait allusion aux enfants, mais ce ne sont pas les mineurs qui sont à la base de tout ça. Donc, moi, je pense que la solution efficace, c'est que non seulement on puisse décréter ce qui est étendu de la RDC, mais aussi qu'on puisse charger les magistrats pour que les magistrats puissent s'imprégner de tous ces dossiers-là, et à partir de ces magistrats-là, c'est eux qui sauront maintenant où orienter la situation. Si c'est un mineur, bien évidemment, devant les tribunaux pour enfants, si c'est un majeur, devant les tribunaux, soit des faits, soit les tribunaux de grande instance. Voilà ce que j'avais à dire, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Le problème de l'échange d'informations, ça c'est important par rapport à ce qui s'est passé. On a vu à Kinshasa, quand l'opération était lancée à Kinshasa, des jeunes gens qui ont quitté Kinshasa pour aller vers le Bandundu, vers les Bakongo, vers les Kasaï, et vice versa. Si c'est en Mbujimayi et qu'on lance l'opération, il y en a qui vont fuir en Mbujimayi pour venir à Kananga. Si Kananga lance l'opération, ça traverse Chikapa, et que ça soit d'une ville à une autre. Et s'il y a une coordination d'échange d'informations entre les provinces, c'est très bien. Mais vous souhaitez qu'on puisse plus donner assez de moyens, renforcer le travail des magistrats, parce que la plupart de ces bandits se recrutent parmi les majeurs, quand bien même il y a aussi des mineurs qui sont impliqués dans les banditismes urbains comme des Kouluna. Et là, c'est par rapport à cette mesure d'installation des chambres spécialisées des tribunaux pour enfants. Mais pour vous, il faut renforcer le travail de magistrats pour qu'ils puissent faire face à tous ces cas de ceux qui seront arrêtés. Mais rappelons quand même que la CAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, avait souhaité, quand elle a appris que le gouvernement a initié cette opération, il serait mieux que la police soit sensibilisée sur le respect des droits de l'homme, le respect des procès justes et équitables. Mais aussi, la CAJ avait souhaité que s'il y a des policiers qui ont été cités comme auteurs des dérapages lors de l'opération passée, qu'ils soient écartés de la prochaine opération. Merci beaucoup, Maître Adrien, de nous avoir appelé de Kananga au Kasaï central. Nicolas, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Nicolas et bienvenue dans cet échange.
Bonjour la radio Capi.
Pour vous, comment on peut arriver à accompagner cette opération de lutte contre les banditismes urbains pour qu'elle soit efficace et surtout qu'elle ait des résultats qui puissent, si pas satisfaire tout le monde, mais qui sont acceptables et éviter les genres de contestations qu'on a rencontrées lors de l'opération de la fois passée?
Bon, moi je pense que la proposition du gouvernement par la bouche de son porte-parole, son excellence M. Lambert Mende, qui parle pour mettre terme à ce système de bandes urbaines, je pense que ce n'est qu'un arrêt provisoire d'hémorragie. Rappelez-vous, à l'époque passée, il y avait une autre opération nommée Likofi, et où en sommes avec cela. Mais plutôt, si vous lisez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le préambule, c'est bien précisé. On a dit que les insatisfactions, les injustices conduisent l'homme à la révolte. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour ne pas amener les gens à faire ce qu'ils font là? Donc, plutôt, il faut créer les emplois.
Mm-hmm.
C'est par manque des emplois que les gens font cela. Monsieur, s'il vous plaît, allons-y comprendre un peu ces faits. Si aujourd'hui vous partez au travail selon la fixation des heures de travail dans notre code de travail, c'est dans 8 heures.
Mm-hmm.
Vous prenez 8 heures du travail et 8 heures de sommeil suffisant. Et le reste de 8 heures là, si vous êtes fort, c'est pour aller visiter un membre de la famille, mais généralement on se repose toujours. Comprenez?
Mm-hmm.
Alors, c'est par manque des emplois. Même si vous commencez à Kinshasa, j'ai suivi mes prédécesseurs, on dit que l'opération peut commencer ici, mais les gens fuient pour Bandundu, ainsi de suite. Comprenez un peu la grandeur de notre pays pour terminer cela. Et aussi, il ne faut pas charger les magistrats de faire les suivis. Non, ce n'est qu'un arrêt provisoire d'hémorragie. Quant à moi, il faut que l'État se mette au centre de la création des emplois.
Mmh.
Et vous verrez qu'il n'y aura même pas les débats inutiles dans la rue. Il n'y aura même... Donc, chaque jour, le matin, tu pars au travail, tu rentres le soir, tu n'auras pas le temps de voir si le voisin a mangé ou pas. Donc, tu t'occupes de tes affaires.
Mmh.
Vous comprenez? Alors, quant à moi, au lieu d'aller de gauche à droite, il faut qu'il y ait les emplois et à travers les emplois, il n'y aura pas de bandes urbaines appelées communément Kounouna.
Merci. Merci beaucoup, Nicolas. C'est important ce que vous avez dit. Vous estimez que la question ne doit pas être abordée seulement dans la traque de la criminalité, mais il faut remonter d'une manière structurelle, mais pas de mesures conjoncturelles. C'est pourquoi vous proposez l'encadrement des jeunes. Si ces jeunes ont accès à l'éducation, ils ont accès à l'occupation, ils sont employés, ils travaillent, ça sera difficile qu'on les retrouve aujourd'hui dans la rue comme Kounouna. C'est pourquoi pour vous, le fait de pouvoir traquer, de reprendre l'opération, c'est une mesure provisoire, mais il faut aller à la racine, c'est l'encadrement de la jeunesse, c'est ce qui peut arriver à mettre fin à ce phénomène de criminalité. Merci beaucoup Nicolas, vous êtes à Kinshasa. Théo Kabanga, vous êtes avec nous comme invité, nous allons revenir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour changer, parce que là on a des difficultés pour joindre notre invité, le général Célestin Kanyama, et là on a des petits soucis sur sa ligne téléphonique qui passait tout à l'heure. Mais en attendant, Madame Josephine, vous êtes à Boston aux États-Unis d'Amérique, merci de nous avoir contacté pour votre intervention dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Madame Josephine, vous êtes avec nous. Et du coup, on va tenter de pouvoir recontacter Madame Josephine. Alain Bolodjo nous a écrit de Kinshasa. Il dit ceci: il faudrait reconnaître que la problématique des Kounouna reste l'épine dorsale de notre pays. Plus de ménages en sont victimes de ces tragiques phénomènes. J'estime modestement qu'il faille explorer toutes les autres opportunités en vue de solutionner durablement, au lieu de continuer avec des actions ponctuelles qui apparaissent, de mon point de vue, des effets comprimés aspirine, c'est-à-dire des solutions palliatives qui ne satisfont que des objectifs conjoncturels. Il est plus qu'impérieux que nous nous attaquions aux facteurs de ne plus nous contenter de combattre seulement les symptômes. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capitoux, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe du sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la musique.
Et nous avons en ligne Théo Kabanga. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Yes.
Et vous êtes les coordonnateurs de la coalition des ONG des droits de l'enfant. Et nous parlons de l'annonce du gouvernement de reprendre l'opération des tracts de lutte contre les banditismes urbains. Et les ONG avaient été montées au créneau pour dire la fois passée qu'il y a eu des dérapages. Ils ont accusé la police. Mais alors là, il faudrait qu'on ait des mécanismes et des mesures qui accompagnent cette opération pour lutter contre les banditismes urbains. Mais d'un côté, pour rester dans ce souci, dans cette logique de respect des droits des uns et des autres. Alors, comment vous avez accueilli d'abord cette annonce du gouvernement de reprendre cette opération de lutte contre le banditisme urbain?
Nous avons accueilli favorablement cette décision parce que ça relève de la responsabilité de l'État, des gouvernants, de pouvoir protéger les populations. Donc, c'est tout à fait normal qu'un gouvernement puisse aussi s'intéresser à tout ce qui touche aux enfants. Cependant, cette préoccupation ne devait pas être quelque chose qui vient comme un cheveu dans la soupe. Ça doit se préparer. Tous les intervenants doivent y contribuer d'une manière ou d'une autre pour avoir une solution définitive. Parce qu'aujourd'hui, on peut arrêter ces enfants. On va les amener devant le juge pour enfants, ce qui est tout à fait normal. Les juges n'ont pas d'endroit pour envoyer ces enfants. Monsieur Gilles, je vous informe que la prison centrale de Makala, dans son pavillon 9, a plus ou moins 300 enfants sur une capacité d'accueil de 75. Donc nous sommes déjà au-delà de la capacité. Alors les autres qui vont venir, on va les envoyer où? C'est vrai, les juges vont décider, on faut les envoyer à tel endroit, mais ces endroits-là, aujourd'hui, ne sont plus fonctionnels. Que ce soit Mbenseke, que ce soit Madimba, et après, où est-ce qu'on va envoyer ces enfants?
Mais Théo, quand vous dites qu'il faudrait que tous les intervenants puissent être impliqués, pensez-vous aujourd'hui qu'il faille que le gouvernement se mette avec les ONG de défense des droits de l'homme, la société civile, le magistrat, pour définir ensemble les mécanismes qui doivent accompagner cette opération?
Oui, absolument, parce que nous sommes tous des acteurs de cette société, chacun avec un niveau de responsabilité qui est le sien. Donc le gouvernement, c'est vrai, a une grande part de responsabilité, mais nous aussi, nous pouvons apporter ne serait-ce que des idées qui peuvent améliorer la situation tant soit peu.
Mais la fois passée, les ONG avaient accusé la police de dérapage en estimant qu'il y a eu même qui ont pu évoquer des cas d'exécution sommaire. La police a estimé que ceux qui étaient impliqués dans ces cas de la police l'avait annoncé d'ailleurs dans cette émission Parole aux auditeurs, que ceux qui étaient impliqués dans des cas de dérapage ont été punis. Mais quand je regarde après l'annonce du gouvernement, l'action congolaise, l'association congolaise pour l'accès à la justice, l'ACAJ, a estimé qu'il fallait il serait mieux que ceux qui étaient impliqués dans des cas de dérapage la fois passée, bien sûr, les éléments de la police soient écartés de cette opération et que la police soit sensibilisée sur le respect des droits de l'homme. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait ces ouvertures au niveau de la police qui permettent à ce que la police soit assez sensibilisée sur le respect des droits de l'homme et de quelle manière on doit passer aux opérations pour éviter que ça soit transformé en règlement des comptes, parce qu'il y a un auditeur qui a eu peur que les opérations ne se transforment pas en tracts et en règlement des comptes.
Moi, je pense que les dérapages vont toujours avoir lieu parce que la police, non seulement n'est pas formée pour ce genre d'opérations, mais surtout, la population elle-même, les enfants eux-mêmes, ne sont pas préparés à cette opération-là. On va l'annoncer, mais sans des mesures d'encadrement, sans préparer. Vous dites que non, les parents, dans tel délai de temps, prenez vos enfants, nous ne voulons plus les voir dans les rues, et tout ça, si on retrouve les enfants, on va faire ceci. Rien n'est fait pour prévenir. On va se retrouver une nuit ou un matin avec la police en train de traquer. Alors à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'il y aura des résistances. Et lorsqu'il y a résistance, la police est obligée de faire appel à ce qu'elle peut avoir comme moyen d'autodéfense ou de défense. Et donc, les dérapages auront lieu. Donc, moi, je pense que c'est une opération qu'il faut lancer parce que ça relève de la responsabilité de l'État, mais elle doit être encadrée, elle doit être soumise à un certain nombre de règles qui peuvent la sécuriser et plus ou moins sécuriser la population.
Mais parce qu'il n'y a pas de cas, tous les cas de traque dans l'opération, il n'y a pas toujours la flagrance, ça veut dire on ne va pas peut-être surprendre ces jeunes en train d'opérer, en train de s'affronter pour qu'on les arrête. Cela veut dire qu'on peut lancer une opération, dès qu'on dit aux gens qu'on lance l'opération, c'est que chaque personne devient polie, on l'a vu la fois passée, tout le monde a bien coiffé, les jeunes gens sont rentrés dans leur famille, et là le problème va se poser, comment la police aujourd'hui peut-elle identifier alors que les gens vivent calmement chez eux, pour savoir, voilà, celui-ci c'est un bandit, c'est un kuluna, celui-ci c'est, il est, parce qu'aujourd'hui on se rappelle qu'il y a des familles qui déplorent, qui disent qu'il y a des jeunes gens qui ont été ramassés devant leur parcelle. C'est là peut-être où on évoque le rôle des chefs quartiers, de la population, qu'ils soient associés dans ces genres d'opérations pour éviter qu'il y ait des victimes, des personnes innocentes qui soient embarquées par la police, parce qu'on ne saura pas, on ne trouvera pas tous ces jeunes en train d'opérer sur le terrain pour qu'ils soient attraqués et arrêtés.
Oui, mais moi je vais vous donner deux cas. Vous avez Mongafula, vous avez Massina. Les populations sont journellement attaquées, tuées, violées. Et lorsque la population va vers la police, et il n'y a pas de solution. Et la solution, la police elle-même n'est pas suffisamment représentative dans beaucoup de quartiers.
Mmh.
Alors à ce moment-là, lorsque les personnes qui veulent bien porter plainte contre ceci, contre cela, vont se trouver devant une difficulté évidente. Donc, pas moyen d'avoir la suite. Donc, je crois qu'il y a moyen de trouver la possibilité de collaboration entre la police et la population.
Mmh.
Sans cela, on aura toujours à déplorer la situation sans trouver de solution. Parce que la police qui doit protéger la population, lorsqu'elle est appelée, elle ne vient pas.
Mm-hmm.
Les gens sont appelés à pouvoir faire leur propre justice.
Mm-hmm.
Nous allons déplorer.
Mm-hmm. Mais rappelons quand même, Théo Kabanga, rappelons quand même que l'opération qui a été lancée en 2014, on se rappellera, qu'il y a eu quand même des retombées. On a vu, comme je le disais tout à l'heure, des jeunes gens qui étaient devenus propres, qui commençaient à coiffer, qui commençaient à chercher à vendre dans des cabines publiques. Il y a eu quand même des retombées. On a vu beaucoup de quartiers où on ne pouvait plus se filer la nuit, les gens commençaient à se filer dans les heures tardives. On peut dire quand même, au-delà de ce qui a été déploré, quand même, l'opération a pu apporter des résultats dans la ville de Kinshasa.
Oui, ça a apporté, mais pour quelle durée? Parce que 2014, ce n'est pas, il n'y a pas 10 ans. Donc, ce sont des phénomènes récurrents. Donc, on va le faire aujourd'hui pour attendre encore dans 2 ans que la situation dégénère et puis qu'on relance encore une autre opération sous une autre dénomination.
Nous voulons
des solutions définitives. Nous voulons des solutions durables. Tant qu'il n'y a pas de solution durable, donc la situation va perdurer.
Mmh.
Et la police elle-même, et je ne sais pas pourquoi le journal n'est pas arrivé, la police elle-même aussi a ses propres problèmes.
Mmh.
Pour mieux régler ce problème, la police elle-même aussi a ses problèmes que l'aurait bien voulu trouver des solutions.
Mmh, voilà. Et ces problèmes, on les aurait connus avec le général Célestin Kanyama. Dommage qu'on a des petits soucis. Là, quand on rappelle sur sa ligne téléphonique. Mais on vous garde en ligne, Théo Kabanga. Le temps d'écouter Maître Pascal qui est à Dungu et d'aider ici à Kinshasa. Maître Pascal, vous nous avez rejoint dans cet échange. Il y a tout à l'heure Nicolas de Kinshasa qui estimait que l'attaque de bandits, c'est une opération, comme le disait Alain Bologne dans son message, palliative, ça ne peut pas résoudre cette question si on n'attaque pas les problèmes d'une manière structurelle, Maître Pascal.
Oui, merci, monsieur le journaliste, merci à la Radio Parti, merci aussi à notre invité, général Kanyam. Concernant la thématique du jour, monsieur le journaliste, moi, je vais d'abord préposer l'introduction à analyse des faits et je vais conclure aux pistes de solutions et qui sera également mes questions. Mais c'est le journaliste, notre gouvernement et nos dirigeants devraient d'abord s'attaquer aux causes
mm-hmm.
avant de s'attaquer aux effets. Les causes qui est considérée comme les racines et les faits qui est considéré comme le brache. C'est-à-dire, ils devaient en amour identifier les facteurs occasionnant les phénomènes corona. Car ce phénomène, que moi j'appelle le virus, commence maintenant à ravager la société. Ça généralise partout dans le pays, non seulement à Kinshasa, voire les provinces, même dans le territoire. Monsieur le journaliste, on avait organisé l'opération Likofi concernant les tracts de Corona. Que nous, de la périphérie que nous sommes ici à Dungu, nous avons entendu dans la même chaîne de la radio Okapi, il y avait tant de déclarations et dénonciations. Les ONG des droits de l'homme, ils ont dénoncé des violations graves des droits de l'homme. Les autres, ils ont encouragé pour dire que non, l'opération Likof avait diminué le phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Human Rights Watch, lui également, a dénoncé la disparition des êtres humains en nous rassurant qu'il y a même des plaintes de la famille qui ont déposé devant le bureau de Human Rights, Human Rights Watch, qui déclarait que la disparition de l'air. Et c'est pourquoi ils ont même, donc on a même arrivé à diagnostiquer que les fosses communes de Maluku auraient été les personnes qui étaient disparues au phénomène Likofi. C'est pourquoi moi je propose cette, la solution, c'est qui suit.
Mm-hmm.
Pour conclure mon intervention, à mon humble avis, je dois proposer ce qui suit. On devrait d'abord nous donner les statistiques ou le bilan de l'opération passée avant d'entamer autre opération et de nous montrer les statistiques sur le plan judiciaire. Combien de Kuluna qui ont été arrêtés et jugés en audience publique pour consoler soit la paix de la population. Nos dirigeants ou notre gouvernement devraient d'abord respecter les droits écosoques, qui ont les droits capitaux. Et les droits écosoques, c'est les droits sociaux, culturels et économiques. Et de le faire que la population en profite de ça. Ça sera une grande arme pour éradiquer
le phénomène.
Je vais joindre mon prédécesseur Nicolas, mm-hmm. qui avait appelé de Kinshasa, qui a dit les injustices et les insatisfactions se conduisent l'homme à la révolte. C'est pourquoi, au lieu que nos dirigeants s'attaquaient d'abord au Kuluna à Carvas, que je le considère le dirigeant mal intentionné, qui vole et détourne le bien, donc les fonds octroyés à notre pays, voire également, hier nous avons attendu à Arou, il y avait donc le Sud-Soudan qui était venu faire descendre les drapeaux congolais sur le sol congolais, mais il va s'attaquer aux paisibles populations qui se prennent en charge sur le travail.
Est-ce que vous avez évoqué, Maître Pascal, pour rejoindre Nicolas, vous l'avez dit, le problème de l'emploi, mais je retiens quand même un fait majeur, une proposition très capitale. Vous estimez qu'avant que le gouvernement qui a annoncé la reprise de cette opération, qu'on ait les bilans, là, qu'on sache combien de Kuluna ont été arrêtés l'autre fois, combien ont été jugés, combien ont été condamnés, combien ont été acquittés, parce que parmi les gens qui ont été arrêtés, tous n'étaient pas des criminels selon les ONG, combien ont été acquittés, et c'est de cette façon on pourra accompagner cette autre opération. Mais vous avez raison, Nicolas, tout à l'heure, pour dire le problème réside dans la gestion structurelle de la question. C'est l'accès à l'emploi, c'est l'encadrement de la jeunesse, c'est l'accès à l'éducation. Toutes ces mesures peuvent accompagner la lutte contre ces phénomènes. Et ça, vous avez beaucoup insisté sur ça, Maître Pascal. Dédé, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Dédé, bonjour.
Bonjour monsieur et bonjour à votre invité.
Non, on vous écoute, Denis.
J'appelle depuis. Ouais, je voulais dire ceci. Je suis d'accord avec monsieur Théo Kabanga, c'est ce qu'il a pu émettre comme avis tantôt là avant celui qui vient de parler. En tout cas, il y a un problème. J'ai eu à remarquer moi personnellement que les Congolais ont toujours eu l'habitude d'avoir des profils. Il y a une vérité sur ce problème des Kuluna. Les Kuluna n'est qu'un cas aussi. Qui devait être attribué à la ministère des Affaires sociales. Parce qu'il y a un adage qui dit en français, il n'y a pas de vertu, son minimum vital. Comment voulez-vous? Je prendrai l'exemple de la jeunesse congolaise comme l'exemple d'un maître avec son chien. Un maître qui laisse son chien tout le temps dehors, à la portée de ses chiens qui sont enragés. Le jour où le chien va contacter la rage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ce chien est arrangé, je vais le tuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la jeunesse congolaise aujourd'hui. Nous avons vu le musicien propulser la négativité chez Gelo Kopanga à la jeunesse. Oui. Nous avons vu le parti politique utiliser les jeunes dans le ligue de préparer pour menacer les autres, tout ça. Mais il y a des gens qui sont responsables dans tout ça. Pour que la jeunesse congolaise puisse se comporter, donner lui le minimum vital, encadrer le petit peu au bout de lui.
Mm-hmm.
Il est abandonné sur son triste sort, la jeunesse congolaise. Vous comprenez, monsieur le journaliste.
Mm-hmm.
Donc, nous n'allons pas chercher ailleurs. Et qui sont en train de vouloir, même quand on a les ONG. Les ONG, ils ont des groupes de réflexion, ils ont des groupes intelligents. Ils arrivent à comprendre le pourquoi de ce coulou-là. Peut-être qu'ils proposent des solutions. Vous ne voulez pas les écouter. Alors, doit-on vous laisser en train de terroriser les gens, abattre les gens devant leur famille? Est-ce que ça s'est fait nulle part en plein 21e siècle, le ministre de l'Information? Ça ne s'est fait nulle part, monsieur le ministre de l'Intérieur.
Et d'ailleurs, Maître Pascal venait de le dire, Dédé, qu'il faut d'abord réfléchir, c'est au niveau des causes. Si on se rend compte pourquoi on a cette montée des criminalités urbaines, on peut trouver la solution. Mais vous avez quand même évoqué quelque chose de très, très important, ça a été débattu déjà plusieurs fois dans Parole aux auditeurs, c'est l'instrumentalisation de la jeunesse dans les partis politiques. Il faut quand même qu'on le dise, on a vu plusieurs fois des jeunes des partis politiques s'affronter, ou soit des jeunes d'un parti aller attaquer un autre parti quand il y a des cortèges de manifestations. Alors, cette façon de laisser les jeunes à la merci de la manipulation politique est à la base aussi de la montée de la criminalité, parce que quand ces jeunes ne sont pas utilisés dans les activités politiques à leur heure de liberté et qui n'ont pas une autre occupation, ils ont tendance à pouvoir recourir à la violence. Mais ça aussi, c'est la responsabilité de l'éducation au niveau de partis politiques, de quelle manière les jeunes doivent être encadrés. Merci beaucoup, Dédé. Joséphine, vous êtes à Boston. Merci, madame, de nous avoir appelé pour intervenir dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Radio Okapi, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Hein.
Mm-hmm.
C'est un très bon sujet. Je vais dire ceci. Mon intervention, j'aimerais que monsieur le commandant de la ville, qui soit là, mais je vais intervenir avec des questions. Vous savez, un pays comme le Congo, avec les potentialités économiques,
mm-hmm.
le pays là devait avoir un salaire minimum garanti, un salaire minimum vital. Donc, le salaire minimum vital, c'est-à-dire qu'on devait payer tout le monde. On devait payer tout le monde. Les chômeurs et les gens qui travaillent. Alors, ma première question, je vais demander au commandant, quand ils arrêtent les Kuluna, la première question qu'on leur demande, est-ce qu'ils ont mangé? Monsieur Mende qui a proposé qu'on va amener ces Kuluna, on va les amener dans de maisons de cours pour les juger. On demande aux Kuluna là, est-ce qu'ils travaillent dans leur vie? Est-ce dans leur famille, il y a combien de gens qui travaillent? Parce que moi, ma famille personnelle, il y a à peu près au moins 3 personnes qui travaillent pour couvrir au moins 32 personnes. Vous voyez ce que ça fait.
Mm-hmm.
Hein? Que notre État commence par le commencement. Et puis, il y a pas longtemps, à la radio Okapi, on a parlé le problème de Diop. Hein? Ça, ce sont des Kuluna évolués, des Kuluna intelligents, des Kuluna en cravate. Qu'est-ce que le commandant va faire avec les gens qui volent les gens, qui volent la population pendant la journée? Quelqu'un qui détourne l'argent de la banque, lui, c'est un vrai Kuluna. Il n'attend même pas d'opérer la nuit. Il opère pendant la journée. On commence par les gens qui volent l'argent de la population. On termine les injustices. On paye aux enseignants 200 000 francs au moment où on paye aux gens les députés, on leur donne 6 000 à 12 000 dollars. Quelle injustice dans le même pays. Monsieur, ils doivent terminer l'injustice et ils doivent donner aux gens le salaire minimum vital. Donc, les Congolais doivent vivre. Ils ont droit à la vie. même s'ils ne travaillent pas avec les potentialités économiques congolaises.
Faudrait-il les transformer? Il doit être payé. Merci beaucoup, madame. C'est important. D'ailleurs, cette question de savoir quand on arrête un délinquant, un kounouna, qu'on lui pose la question s'il a mangé, je ne sais pas si c'est les temps à se rapprocher. Parce que vous estimez que le problème aujourd'hui, c'est autour de l'accès aux besoins sociaux de base, le minimum vital que beaucoup de Congolais n'ont pas. Et c'est qu'il y a à la base de ça, il y a ces injustices sociales, les satisfactions, comme le disait notre ami Nicolas tout à l'heure. Mais ça, c'est très important. Mais vous avez quand même évoqué les cas. On a parlé des colonnes intelligentes, des colonnes en cravate. C'est un mot qui a perdu vraiment son sens. Parce que quand ça a été lancé par l'ancien ministre de la Justice, qu'il fallait traquer les colonnes en cravate, c'est qu'on estimait que ceux-là qui détournaient les deniers publics, qui étaient à la base de la spoliation des richesses, c'est appauvrissent des familles qui aujourd'hui ne peuvent plus encadrer leurs enfants. Et ces familles qui à peine touchent 50 000 francs, qui doivent faire face aux autres qui touchent 7 000 à 12 000 dollars, voilà ces inégalités. Ce sont des questions qui doivent être abordées à leur racine. Ça peut créer l'équilibre au niveau de la société et faire face à la situation de la criminalité. En avant d'écouter François qui est en mouvement, on revient à vous, Théo Kabanga, vous êtes avec nous. Alors, est-ce que au niveau des associations de défense des droits de l'homme avec les pouvoirs publics, est-ce que vous avez ce genre de discussions? Quand vous écoutez les auditeurs, ils disent oui, traquer les criminels, c'est bien, les jeunes délinquants, les colonnes, les traquer, c'est mieux, c'est bien, mais il serait mieux de pouvoir aborder la question à la racine. Cela veut dire l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'encadrement des familles, ça peut facilement réduire ces phénomènes que les mesures de pouvoir les traquer. Est-ce que ces questions vitales sont-ils une préoccupation entre les ONG des droits de défense des droits des enfants ainsi que les pouvoirs publics de Okabanga?
Je vous dirais que non. Non, parce que d'abord les ONG sont mal vues du point de vue du gouvernement. Donc le gouvernement ne considère pas les ONG, mais beaucoup plus parce que le gouvernement ne veut pas qu'on aborde des questions de fond. Le gouvernement, parce qu'il a le pouvoir, l'impérium, il pense qu'il peut tout faire, il peut tout résoudre. C'est son droit. Mais entre-temps, la situation est en train de dégénérer. Monsieur le journaliste, je vous dis ceci. Je suis contre les Kuluna. Je suis contre ce phénomène du début à la fin. Mais est-ce que par hasard, ça ne peut pas être un moindre mal par rapport au djihadisme? Je vous informe aujourd'hui qu'il y a des mosquées qui sont en train de recruter des jeunes gens. On ne sait pas si demain, après-demain, on aura des djihadistes venant du Congo. Et donc, ce sont des jeunes qui sont recrutés dans la rue, par les mosquées. Et donc, nous sommes en train de déplorer le Kuluna, mais demain, ça sera encore plus grave.
Oui, Beto Kabanga, ça quand même, c'est une information assez sérieuse, en évoquant les recrutements des jeunes dans la rue pour être encadrés au niveau de mosquées. Quoi quand même, est-ce que vous avez déjà dénoncé cette situation? L'avez-vous déjà porté auprès de l'autorité publique, que ce soit dans la Commission nationale des droits de l'homme, auprès du ministère de la Justice et de l'Intérieur? C'est une question quand même assez importante.
C'est notre travail de tous les jours. Nous le faisons. Nous n'avons jamais cessé d'en parler. Mais, comme toujours, bon, c'est un fait banalisé. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ne soyons pas surpris qu'on ait des djihadistes. Parce qu'il y a des mosquées qui donnent à manger après le culte. Donc, on est en train de fidéliser les enfants. Et avec le temps, bon, on aura ce qu'on aura.
Il faudrait quand même
à ce moment-là, on va encore déplorer que nous, nous avons des djihadistes.
Il faudrait quand même que ceux qui doivent se pencher se penchent, mais aussi qu'on peut-être pas prêter des intentions et accuser à des mosquées, alors que c'est un fait de charité normale qui ne puisse pas être assimilé à un encadrement et recrutement, Théo Kabanga.
Mais avec l'évolution des réseaux sociaux, la situation qui pouvait être appréciée comme une manne qui vient, elle a toutes les conséquences que ça peut venir.
Voilà.
Vous avez ce qui arrive au Mali et tout ça. Donc, c'est des situations qui peuvent vraiment, qui peuvent nous arriver un jour, si nous ne prenons pas garde. Donc, je suis pour qu'on puisse s'attaquer au phénomène, okay. Mais je suis en même temps pour qu'on trouve des solutions durables.
Voilà.
Pas des choses
d'une manière conjoncturelle. Voilà. On va écouter le dernier François écrit ça, mais quand même, cette question que vous avez évoquée tout à l'heure par rapport aux enfants, aux jeunes, les mosquées, c'est une information que moi je souhaiterais que vous puissiez, vous, à votre niveau, la partager avec l'organisation. Il y a aujourd'hui les associations des cultes musulmans, discuter avec eux, discuter avec le pouvoir public pour éviter que les uns et les autres ne soient accusés d'une manière abusive et que ça crée les incompréhensions, même comme vous l'avez dit dans cette émission, que les autres trouvent qu'ils nous ont été accusés sur les antennes des Radio Capis. C'est pourquoi moi je souhaiterais qu'avec le temps vous puissiez discuter de ces questions avec les organisateurs des différents cultes, que ce soit même les églises aussi où on voit des jeunes qui sont encadrés, que ce soit des orphelinats, pour savoir au juste ces jeunes, on les amène à quoi, mais aussi que le pouvoir public soit impliqué. On vous garde en ligne pour la conclusion, le temps d'écouter François qui est en Bouzoumaï. François, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Radio Café.
Et on vous écoute rapidement, vous avez suivi les uns et les autres. Bouzoumaï a aussi sa particularité, on se rappellera. Quand on avait lancé l'opération du côté de Kinshasa, il y avait aussi l'opération Bata, je crois, lancée à Bouzoumaï. Et au-delà de tout, d'une manière efficace, qu'est-ce qui doit être fait pour faire face à ce phénomène rapidement?
Merci. Puisque nous en avons des honorables qu'on a voté, il y a d'autres qui parlent pour la population. Hier, j'ai attendu l'honorable Emery Okundi qui a parlé des histoires de Kuluna à Kavate. Oui. Est-ce que vous prenez quelles précautions, puisque vous savez tout? La tolérance est zéro qui avait dit que par le président de l'État. Il n'y a rien qui se fait. Tolérance est zéro, les enfants sont délaissés d'adhérer puisqu'il n'y a pas des emplois au papa. Les parents qui demain ne partent pas là, il n'y a pas de quoi vivre. Si vous voulez toujours que le pays soit plongé dans tout ça, c'est pour nous la cravate. Même l'honorable Obeni, s'il vous plaît, monsieur, il avait dit hier que oui, il y avait pour nous la cravate, il y a des universités, partout. Et vous connaissez vous-même. D'abord, commencez avec vos coulounes que vous protégez pour faire souffrir les pays congolais.
Voilà, le problème, c'est de s'attaquer d'abord à ceux qui ont le poste de responsabilité, qui, comme Mme de Vesmé le disait, qui détournent les données publiques et qui appauvrissent les familles qui ne peuvent plus aujourd'hui faire face aux besoins de leurs enfants. Merci beaucoup, François. On termine avec vous, Christian. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Christian.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Christian.
Oui, je voudrais ne pas aborder comme mes prédécesseurs, mais je voudrais ici soulever un point important. Messieurs les journalistes, vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement qui est appelé à prendre des mesures sécuritaires. Moi qui vous parle, j'étais victime, j'étais tombé dans une embuscade à Massina, on m'a tout ravi. Je perdis ma carte de service, de l'électeur, ainsi que mon passeport, voire même tout le bien que j'avais. Donc, si l'État, le gouvernement, prend des mesures sécuritaires pour sécuriser sa population, moi je ne vois comment les ONG peuvent en faire un problème. S'ils ont dit aujourd'hui qu'on a arrêté des victimes, ils puissent démontrer dans leur rapport qu'il y avait des victimes. Mais moi je vous rassure que nous sommes ici à Kinshasa. Personnellement à Limba, dans mon quartier, partout, les gens qu'on avait arrêtés, on s'est renseigné par après que c'était de vrais Kuluna. Et lorsque le Kuluna opère, lorsqu'il les tue, lorsqu'il ravit le bien des gens, pourquoi ces ONG ne puissent pas peut-être les interviews, les éditer, avoir des séances d'enseignement pour demander à ces gens de laisser cette opération? Mais les ONG se soulèvent lorsque les gouvernements font une mesure pour nous sécuriser et ils commencent à dire que non, voilà, il y a des règlements de comptes. Est-ce qu'ils ont des preuves? Ils ont, dans leur rapport, ils ont des preuves, ils se sont renseignés que non, il y avait des règlements de comptes. Moi, je vous dis non. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la...
Avec le gouvernement qu'on reprenne. Oui, oui. C'est vrai, Christian, vous avez été victime d'hommage pour ce qui est arrivé, mais vous auriez souhaité que les ONG fassent aussi ce travail auprès de ces jeunes délinquants pour les encadrer et éviter d'accuser le gouvernement quand il y a des opérations qui sont lancées. C'est votre souci. On revient à vous, Théo Kabanga. Il y a, François qui a évoqué tout à l'heure la criminalité hein, de ces criminels qui réquisitionnent des taxis moto pour pouvoir s'y braquer la population. Toutes ces questions qui doivent être abordées. Et on a suivi les uns et les autres. En une minute et demie pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir que il faut saluer la décision du gouvernement de pouvoir sécuriser sa propre population, mais que cette décision doit être accompagnée de certaines mesures d'encadrement pour éviter le dérapage et de tout ce qu'on a eu à déplorer lors des opérations passées. Et nous demandons à ce que cette opération ne soit pas seulement un cheveu dans la soupe, mais que ça s'inscrive dans la durée, de manière à ce que, d'ici les élections, si élections il y en aura, que nous soyons tous dans la paix et que nous puissions bien élire. Faut pas que nous ayons toujours la peur de la situation des Kuluna qui peuvent déranger toute la situation que nous sommes en train de préparer pour l'avenir du pays.
Merci. Merci beaucoup, Théo Kabanga, d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir donné de votre temps pour partager avec nos auditeurs ce sujet. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de la coalition des ONG des défenses des droits de l'enfant. Rappelons quand même dans les mesures annoncées par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, il y a aussi l'implication de l'inspection générale de la police qui va systématiquement évaluer chaque opération des grandes envergures. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets qui touchent à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Merci à vous tous pour votre disponibilité, surtout à ces grands débats qui sont en train de se dérouler depuis hier et à ce moment même sur la page Facebook des paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain, vendredi, pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ces magazines réalisés et coordonnés par J.R. Lungembo. Julie Fezabongonda a assuré la gestion du standard. Et Pierrot Elamegi a eu le plaisir de vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebouzangwe. Parole aux auditeurs, c'est aussi sur www.radiocapi.net, mais chaque fois en rediffusion à 20h, heure 3 minutes, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.